Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les anges, ils sont nulle part et partout. Dans un pays athée, croire aux anges paraît complètement fou à beaucoup, comme l'a souvent relevé Xavier Emmanueli, fondateur du SAMU Social, dans diverses interviews, lui qui dit croire à leur existence. Pourtant, les anges semblent partout, figurines dans les magasins, personnages de jeux vidéo, symboles sur des affiches de publicité, comme si les Français avaient envie d'y croire malgré tout. Alors les anges, existent-ils et qui sont-ils ? Qui sont les anges ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Jean-Miguel Garrigue, prêtre dominicain, théologien et auteur entre autres donc d'un ouvrage intitulé « Le monde invisible des anges » avec comme sous-titre « Et leur mission dans le plan de Dieu » paru aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour mon père.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors que c'est vrai que quand on prépare une émission sur les anges, dans notre monde, il y a des moments quand même je me pinçais, je me disais mais quel drôle de travail. Tu es quand même un drôle de personnage ou de journaliste. J'imagine que quand on est dominicain, on se pose moins cette question. Mais est-ce que ça vous traverse l'esprit de temps à autre? Ou par exemple quand vous entendez cette remarque de Xavier Emmanueli qui dit qu'il croit aux anges, mais que souvent il n'en parle pas autour de lui parce qu'il a peur qu'on le prenne pour un fou. Que diriez-vous sur ce sujet ?
Je crois que il y a beaucoup de gens, même au-delà des frontières des pratiquants chrétiens réguliers, qui croient aux anges. Certains peut-être croiraient plutôt encore aux démons. Je suis frappé combien en particulier les jeunes sont extrêmement intéressés par tout ce qui touche au démoniaque, peut-être parce qu'ils en ont une certaine expérience à certains moments.
Alors, l'actualité des anges, je me suis dit qu'on allait commencer par quelques éléments de contexte. J'ai découvert que NRJ 12 avait lancé une grande série de télé-réalités qui s'appelle Les Anges, où on va dire des hommes et des femmes qui présentent bien de leur personne, sont dans des lieux mythiques comme Las Vegas, Marrakech et autres, et vivent en huis clos. C'est une série de télé-réalités, et quand j'en ai parlé à certains stagiaires de la rédaction, pour eux les anges aujourd'hui, voilà ce que ça leur évoque, avec cette fameuse Nabila aussi qui a fait beaucoup de buzz. Une utilisation un peu dévoyée, mais ça permettait un peu de contextualiser. Quelques succès de librairie aussi autour des anges, c'est le fameux livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Alors c'est peut-être surtout ma génération qui en a entendu parler. C'est un livre qui a été publié dans les années 90, vendu à plus de 500 000 exemplaires, d'un journaliste Pierre Jovanovitch. Vous aviez entendu parler de ce livre ?
J'avais entendu parler, mais je ne l'ai pas lu.
Vous ne l'avez pas lu. Bref, en tout cas, énorme succès de librairie. Est-ce que vous diriez que les anges intriguent et qu'il y a là un paradoxe contemporain, Jean-Miguel Garrigue ?
Mais les anges ont toujours intrigué, plus qu'intrigué, ils ont toujours habité beaucoup, en particulier l'espace de l'art. Essayer de supprimer les anges de la grande peinture européenne, et on pourrait dire la même chose même pour les autres arts, mais sous d'autres formes, les représentations sont différentes, mais vous perdriez une très grande partie de la peinture, de l'architecture. Pensez à une ville comme Venise. Venise, vous avez des anges partout, 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 partout. Et d'ailleurs, la ville, qui est un peu comme ça sur l'eau, a quelque chose d'un peu angélique. On a l'impression de ne plus être tout à fait sur la terre ferme habituelle sur laquelle nous marchons.
Alors, au sujet des anges, vous commencez votre livre donc en soulignant ce paradoxe apparent, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont partout et ils sont nulle part. Pour nulle part, vous dites « La culture moderne, en mettant l'homme au centre de tout, a fait de lui un grand solitaire. Elle l'a déconnecté de deux enracinements qui lui sont propres, la terre et le ciel. » Expliquez-nous.
La terre, voyez bien tout le souci contemporain. Nous avons découvert soudain l'écologie. La terre, voilà, c'est nous sommes enracinés dans tout un écosystème dont nous dépendons. Alors le ciel, un arbre, il a des racines, mais il a aussi tout ce ses branches et ses feuilles, ses fleurs, etc., qui lui permettent de respirer et d'avoir ces échanges. L'homme ne peut difficilement se passer d'une certaine communication avec quelque chose qui est au-dessus de lui. Alors, il y a Dieu, mais Dieu, c'est tellement absolu, puis lui nous met en demeure. Tandis que les anges, ben, c'était tout le domaine des esprits, des dieux païens, etc. C'est un domaine d'ailleurs plus équivoque, parce qu'il y a les anges, mais il y a le démoniaque aussi. Ça fait moins peur. Dieu nous met en demeure, surtout le Dieu chrétien, le Dieu de la Bible. Les anges, voilà, c'est païen d'une certaine manière. Hein. Les anges nous précèdent dans le paganisme avant la révélation biblique.
Vous dites à propos des réalités invisibles que, en fait, ça serait comme la partie émergée de l'iceberg, que notre vie serait la partie... notre vie serait la partie émergée, mais les réalités invisibles seraient la partie immergée, donc 90% de la réalité.
C'est comme cela que se le sont représentés les hommes pendant des siècles. Dans toutes les cultures, l'humain, c'était comme une sorte d'appendice, comme l'Europe est un appendice de l'Asie, d'un monde spirituel infiniment plus large. Et ça, c'était aussi, c'est vrai de la Bible, bien sûr, mais c'est vrai de beaucoup de religions, de cultures.
Vous auriez des exemples à nous citer ? Vous dites souvent que les sociétés primitives étaient très marquées par ce monde invisible.
Tout le monde animiste, le monde animiste qui est encore très vivant dans un certain nombre de pays, en Afrique, en Océanie, etc. Ben, ce monde animiste est un monde... Qui est sans cesse en commerce avec le monde angélique ou démoniaque d'ailleurs, parce que les anges et les démons sont des sous-parties, je dirais, de ce monde spirituel.
Alors on imagine que si vous êtes là ce matin et si vous avez écrit un livre, vous croyez donc à l'existence des anges. Avant que vous nous expliquiez qui ils sont, n'est-ce que de l'ordre ou d'abord, enfin c'est d'abord probablement un acte de foi, mais est-ce que vous avez des histoires à nous raconter ou qui vous ont été rapportées ou que vous avez vécu vous-même, qui vous ont aidé, comme on appelle ça je crois dans le jargon chez nous, un peu des grâces sensibles, à croire encore plus à l'existence des anges?
Alors, c'est un article de foi dans le credo. Hein, je crois Dieu créateur, Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, explication de l'univers visible et invisible. Donc, la terre, c'est l'univers visible, la terre et le cosmos en général. Et il y a aussi un univers invisible qui est créé, mais qui est néanmoins spirituel. Alors, après, il y a les manifestations. Elles sont multiples. Alors, on peut parler de celles des saints, on en parlera, mais il y a tout ce témoignage du paganisme, etc., qui a de l'animisme, qui a commerce avec ce monde invisible.
Donc ça n'est pas à rejeter. Pour vous, ce sont des réalités.
En tout cas, voilà, on ne peut pas purement et simplement les mépriser du haut d'une supériorité rationaliste. Il faut prendre ça en considération. Et vous me disiez, est-ce que vous avez vous-même Oui, je pense à un témoignage que m'a donné un jour un ami. Il dit, j'étais en voiture. Je me suis arrêté à un feu rouge. Le feu est passé au vert. Je passe la première et je vais m'engager. À ce moment-là, j'entends très distinctement dans ma tête, je n'ai pas entendu dans mes oreilles, mais dans ma tête, un ordre très net, stop, tu piles. Je pile, parce que c'est comme si quelqu'un me l'avait dit à côté, j'aurais fait pareil. Et à ce moment-là, je vois passer deux gamins en bicyclette, qui ont brûlé le feu rouge de leur côté, et à toute vitesse, et qui se seraient écrasés contre la voiture. Il dit, écoute, je ne sais pas, mais je ne peux appeler ça que... Parce que je n'ai pas l'impression que c'est un croyant, celui qui me parlait. Je ne crois pas que ce soit le Seigneur, ce n'était pas quelque chose qui me concernait, moi. dans la profondeur de mon âme. C'était vraiment... Là, il y avait quelque chose de... Une protection. On a le domaine des anges gardiens.
Alors, de fait, c'est ce que raconte aussi Pierre Jovanovitch. Donc, je crois qu'il était journaliste pour le Quotidien de Paris en Californie. C'était dans les années, donc, je pense à la fin des années 80 ou début des années 90. Et il raconte, c'est comme ça qu'il commence son livre, hein, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Il a été projeté, comme ça, il était en train de conduire, il a été projeté sur le côté, sans explication. Et tout d'un coup, il y a une balle qui a traversé, une balle perdue, qui a traversé le pare-brise. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça l'a mis en chemin. Alors, cette introduction faite, on y reviendra peut-être avec votre témoignage ou des témoignages de saints. Qui sont-ils, les anges, Jean-Miguel Garrigue ?
Alors, ce sont nos aînés. Là, nous entrons dans la Bible, nous entrons dans la révélation juive et chrétienne. Ce sont nos frères aînés, c'est-à-dire qu'ils ont été créés avant nous, dans un avant d'ailleurs qui est difficile de dater, puisque... D'une certaine manière, le temps comme le nôtre commence avec le cosmos matériel, mais enfin, il y a un temps spirituel. Ils étaient là lors de la création du cosmos. Et c'est le livre de Job qui le dit, les étoiles du matin, c'est comme ça qu'il appelle très poétiquement les anges, étaient là et ont applaudi, ont loué Dieu au moment où il a posé le fondement du monde visible, du monde matériel.
Donc ils étaient là avant nous, mais qui sont-ils ? Ce sont des créatures purement spirituelles ?
Ce sont des créatures purement spirituelles, car le mot « ange », par lequel nous le connaissons, ne les définit pas dans leur nature. « Ange » veut dire « envoyé ». D'ailleurs, c'est pour ça que l'ange du Seigneur, nous en parlerons sans doute plus loin, ne veut pas dire « un ange », veut dire... Dieu lui-même s'envoyant en mission sur la terre. Donc ange veut dire envoyé. Quand la Bible parle de la nature spirituelle, alors elle dit c'est que des créatures incorporelles, des créatures spirituelles, des esprits. C'est là comme ça qu'on est renvoyé à ce domaine de l'esprit. Évidemment, dans une culture matérialiste comme a été souvent la nôtre, mais je crois que cette culture matérialiste est aujourd'hui très culturellement, très datée. Que ce soit par du plus haut des recherches de la physique contemporaine sur la matière, c'est prodigieux, le monde... de la matière telle qu'il est en train d'être découvert et analysé par les physiciens, et de moins en moins, j'allais dire, matérialiste. La matière devient une entité extrêmement subtile, mystérieuse, et qui entre les frontières entre le physique et le métaphysique deviennent de plus en plus ténues. Et de l'autre côté, il y a cette nostalgie... du spirituel, spirituel qui n'est pas forcément chrétien, hein, mais d'un spirituel qui peut aller vers le spiritisme, vers toutes sortes de choses que je considère moi plutôt dangereuses et à éviter. Mais ça indique quelque chose. Et une des choses qui m'a frappé aussi, c'est que quand les anges ont été congédiés de notre culture, ils sont revenus par le biais des extraterrestres. Car les extraterrestres, sur lesquels je n'entre pas maintenant dans le débat de savoir s'ils peuvent exister, etc. Mais les extraterrestres ont des caractéristiques très semblables à celles des anges.
Par exemple ?
Eh bien, leur supériorité. On les imagine toujours supérieurs à nous, alors qu'il y a autant de chances pour qu'il y ait peut-être effectivement des extraterrestres, mais qu'ils soient encore dans un état beaucoup plus primitif que nous. On a besoin de grands frères, en quelque sorte, psychologiquement. Et donc, on imagine les imagine d'une manière qui ressemble beaucoup aux anges. Souvent, d'ailleurs, on pense que c'est eux qui ont amené la vie sur la terre, etc., qui nous surveillent, qu'ils évitent que nous nous lancions trop dans des destructions atomiques et autres. C'est très intéressant, tout ce monde de la science-fiction est très révélateur. Spielberg a fait des films admirables sur ces questions-là. Et donc, ça montre que l'homme a du mal à ne pas accepter qu'il serait vraiment seul dans le cosmos, et qu'il n'y a pas d'autres esprits, d'autres...
Alors, j'avais une dernière question, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. Je vois le temps qui passe. Vous dites dans votre ouvrage qu'ils sont extrêmement discrets, et c'est peut-être ce qui fait aussi que beaucoup de chrétiens ont du mal à y penser, ou à y croire, ou à faire appel à eux. Et vous dites qu'il ne faut pas s'étonner en fait, de cette extrême discrétion, parce qu'elle est le signe de l'effacement extrême de l'amour. Expliquez-nous ça.
L'amour ne fait du bien sans toujours se faire remarquer. On dit la cuisine des anges. La cuisine des anges, c'est quand vous trouvez qu'on a fait la cuisine, mais on ne sait pas qui l'a faite, alors on dit c'est la cuisine des anges. En fait, c'est souvent l'un de nous, je pense dans des communautés, qui l'a faite. Et donc, mais il s'est effacé. Les anges, c'est un peu ça. D'ailleurs, leurs noms, même les noms de la tradition biblique, des archanges, par exemple Michel, Gabriel, Raphaël, c'est des noms divins de quelque chose de Dieu qu'ils rendent présent. Michel, c'est qui est comme Dieu, la grandeur de Dieu. Gabriel, c'est la force de Dieu. Raphaël, c'est Dieu guéri, la guérison de Dieu. Et c'est à la fois des actions de Dieu, et en même temps, ce sont des personnes qui sont des exécutants et qui donc s'effacent. Pour eux, ce qui est important, c'est de nous donner Dieu. Mais eux, ils n'ont pas tellement envie de se mettre en avant.
Ce matin, ils n'ont pas le choix et ils sont mis en avant. On va parler d'eux, on va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver, Père Jean-Michel Garrigue, donc pour cette émission sur les anges, avec le titre de cet ouvrage, Le monde invisible des anges, paru aux éditions de l'Emmanuel, qui semble-t-il est un de vos livres qui s'est le mieux vendu.
Desdichados ojos míos, que son mirada de ciego, ese llanto. Que en arroyo se convierte, infeliz hoy para siempre, sin miraros, sin miraros.
Emmanuel Pella.
Qui sont les anges ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Jean-Miguel Garrigue, prêtre dominicain, théologien, auteur donc d'un ouvrage intitulé « Le monde invisible des anges » paru aux éditions de l'Emmanuel, avec ce sous-titre « Et leur mission dans le plan de Dieu ». Père Jean-Miguel Garrigue, dans votre livre, vous expliquez que le Dieu des chrétiens, la Bible, amène une forme de révolution en fait dans la manière de considérer le monde des anges. Vous avez cette phrase « La Bible accomplit une démystification de l'ange comme intermédiaire obligé du Dieu unique ». Conception qui est propre à la mythologie polythéiste. Alors je vais relire la phrase. La Bible accomplit une démystification de l'ange comme intermédiaire obligé du Dieu unique, conception qui est propre à la mythologie polythéiste. Expliquez-nous cette phrase.
Dans le paganisme, dans le polythéisme, c'est-à-dire des religions qui disent qu'il y a beaucoup de dieux, beaucoup d'esprits, etc., le Dieu, il y a toujours un Dieu supérieur, un Dieu transcendant, mais il est pressenti, mais on n'a pas de relation avec lui, il est très lointain. Donc finalement, on va vers ce qui est le plus proche, c'est-à-dire vers ces divinités inférieures de type angélique. Ça, c'est le paganisme. Dans la Bible, ce que nous voyons, c'est que soudain, Dieu parle à Abraham. Dieu entre dans l'histoire, s'adresse aux hommes directement, leur propose une alliance. Du coup, forcément, les anges se trouvent très relativisés. Ils ne sont plus des intermédiaires nécessaires, puisque on peut avoir l'accès direct, et que c'est même cela, la foi. C'est cet accès direct à un Dieu qui se communique lui-même. Donc les anges vont apparaître comme des serviteurs, ce qu'ils sont, serviteurs de Dieu dans son dessein pour les hommes, mais justement dans un certain effacement.
Alors vous dites d'ailleurs dans votre livre, un autre passage, que parfois on peut avoir chez les chrétiens, pour ceux peut-être qui ont une dévotion très importante ou excessive aux anges, leur donner une place justement qui n'est pas juste.
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ça peut devenir un peu superstitieux, une obsession sur les anges, comme si on ne pouvait avoir de relation avec Dieu qu'à travers les anges. Néanmoins, les anges, pour toute la tradition biblique, c'est à travers eux que Dieu nous donne les révélations prophétiques, que Dieu se communique, même la loi de Moïse donnée au Sinaï, les textes bibliques nous disent qu'elle a été donnée à travers les anges. C'est-à-dire que, il y a une place néanmoins des anges vis-à-vis de nous dans la communication de la vérité divine, des vérités de Dieu. Ils sont messagers. Ce sont des envoyés, des messagers.
Qu'est-ce qu'il faut... Dans les Écritures, il est souvent parlé de l'ange du Seigneur. Et après, il y a bien des épisodes bibliques où on parle de la présence d'anges. Alors, est-ce que vous pouvez faire le distinguo peut-être entre les deux ?
Alors, quand c'est vraiment l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'envoie. Très mystérieux, mais pas si mystérieux quand on sait, à partir du Nouveau Testament, de Jésus, que Dieu s'est envoyé lui-même en nous envoyant son Fils.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'un
mystère
moment ?
Mystère de la Trinité, si vous voulez. Mais l'ange du Seigneur apparaît beaucoup dans le livre de la Genèse, dans le livre de l'Exode, dans les premiers livres. Dans les premiers livres de la Bible. Et on voit très bien que c'est Dieu lui-même. Par exemple, au moment où Dieu vient annoncer à Abraham la naissance d'Isaac, au chêne de Mambré, on voit très bien que c'est Dieu lui-même, en fait, qui vient avec deux anges, lesquels iront à Sodome exécuter les desseins de Dieu sur cette ville. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu parler à Abraham.
Alors je vais vous laisser, tousser, je vais citer d'autres passages que vous donnez. Il y a aussi donc le livre de Toby, où ce fameux Toby qui est envoyé par son père rencontre un certain Raphaël, donc l'archange Raphaël. C'est là où on apprend qu'il y aurait sept anges qui se tiennent constamment en présence de la gloire de Dieu, dit l'Écriture. Il y a aussi dans le livre de Zacharie, dans l'Apocalypse, où on parle des anges. Il y a aussi beaucoup de passages du Nouveau Testament. Les passages clés de la vie de Jésus, il y a souvent un ange. Jésus qui est au désert, au moment de l'agonie. Parlez-nous peut-être de quelques-uns de ces passages.
Tous les moments, l'Annonciation. C'est l'ange Gabriel qui l'annonce à Marie. La naissance de Jésus à Bethléem. Les anges l'annoncent au berger. L'agonie de Jésus à Gethsémani, un ange le console. La résurrection, les anges sont dans le tombeau vide. L'ascension, les anges sont là qui annoncent aux hommes que Jésus reviendra comme il est parti. On peut dire qu'ils sont là à tous les moments. Pierre est arrêté par le Sanhédrin après la Pentecôte. C'est un ange qui le délivre. Ils sont là partout. Si on devait enlever de la Bible toutes les pages où il est question d'anges, eh bien, il resterait pas grand-chose.
Est-ce qu'il faut essayer de les distinguer, ces anges? Parce que la tradition chrétienne donc, parle de différents types d'anges. Il parle des chérubins, des séraphins, et puis il y a de multiples noms pour d'autres. J'essaie de retrouver le passage où vous les citez, les trônes, les dominations, les puissances, les archanges. Qu'est-ce qu'on sait exactement de toutes ces hiérarchies angéliques? Est-ce qu'il y a quelque intérêt en fait, à se pencher là-dessus?
C'est un monde qualitatif, c'est pas un monde quantitatif, on n'est pas dans la matière. Il n'y a plus de quantité, c'est qualitatif. C'est un monde, comme tout univers qualitatif, c'est un univers d'une richesse, d'une différenciation extraordinaire. Et donc, voilà, qui se hiérarchise d'une manière qui nous reste très mystérieuse. Cette multiplicité de noms indique d'abord un univers immense, myriade de myriades, dit l'Épître aux Hébreux, un univers spirituel avec des nuances extrêmement variées.
Donc, par exemple, prenons un exemple, les chérubins, que sait-on d'eux? Vous dites à leur sujet que les chérubins seraient comme les plus proches, en fait, de la gloire de Dieu, c'est ça?
Oui, ceux qui ont la connaissance la plus haute de Dieu, ceux qui voient Dieu de plus près dans le monde angélique. Mais les séraphins, c'est eux qui vivent de l'amour. Un séraph, c'est un brûlant, c'est quelqu'un qui brûle d'amour. Les chérubins sont les plus près. C'est très intéressant de voir que beaucoup de ces noms, d'ailleurs, ont une origine païenne. C'est-à-dire que, par exemple, le kéroub, c'est une sorte d'animal mythologique que les Juifs voyaient quand ils ont été déportés à Babylone. Et voilà que le livre d'Ézéchiel nous les présente comme étant ces animaux que les gens de Babylone adoraient, comme des dieux. Et voilà que Ézéchiel nous les présente comme étant ceux qui portent le trône de Dieu. Voilà, donc complètement relativisé par rapport au Dieu transcendant d'Israël.
Vous retrouvez votre voix, donc preuve que les anges sont présents autour de ce plateau et intercèdent pour vous. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on aille un peu plus loin dans cette émission, comme vous l'avez fait pour la première partie en rapportant le témoignage d'un ami, nous donner un autre exemple qui aide à toucher du doigt ces réalités invisibles, soit tirées de votre vie personnelle, soit de la vie d'un saint?
Alors, la vie des saints, ils sont très, très présents. Je pense près de nous, à Saint Jean 23, Saint Jean 23 avait une grande dévotion aux anges. Et il dit qu'il a obtenu beaucoup de choses parce que quand il devait avoir une rencontre délicate, il a été longtemps nonce, donc diplomate du Saint-Siège, et avant d'aller rencontrer la personne pour cette rencontre délicate, il priait son ange gardien d'aller parler en quelque sorte avec l'ange gardien de cette personne de manière à la disposer favorablement à la faire en question. Et il dit qu'il obtenait beaucoup, beaucoup de grâce en faisant cela.
Je crois qu'on rapporte une autre histoire à propos de Jean 23, je me permets de la citer, c'est qu'une fois, il aurait raconté qu'il s'était couché en étant extrêmement soucieux, conscient probablement aussi de la charge qui lui incombait, et il dit qu'il aurait une inspiration angélique, et qu'en tout cas, pour lui, son ange gardien lui aurait dit « Écoute, te prends pas trop au sérieux quand même, t'es jamais que le pape, me semble-t-il. » Je sais pas si c'est texto, en tout cas,
Il parle souvent dans ses écrits, il parle des anges dans sa vie personnelle.
Alors à propos des anges, vous aviez cette expression, me semble-t-il aussi dans la première partie, vous disiez en fait c'est comme si les hommes cherchaient des aînés. Vous en parlez un moment dans votre livre, et donc vous expliquez ce mystère dit beaucoup de choses du monde angélique, c'est que Dieu aurait tendance à favoriser le cadet. Alors le cadet en l'occurrence serait l'homme, et cela expliquerait la destinée d'une partie du monde angélique, de ses aînés qui auraient mal pris que Dieu ait cette faveur pour le cadet de la famille. Expliquez-nous cette histoire. Histoire vraie, semble-t-il.
C'est la trame même de la Bible. L'aîné servira le cadet, c'est écrit dans la Genèse. À propos d'Ésaü et de Jacob. Dieu s'est complu à montrer que dans son dessein, justement, il y a des aînés, il y a des cadets, mais celui qui est aîné, il doit servir le cadet. Il y a comme une préférence de Dieu qui se manifeste à travers toute la Genèse, le livre des patriarches, pour les cadets. Et en tout cas, c'est par les cadets que beaucoup de choses se passent. Vous pensez à Joseph et Benjamin, qui sont les cadets des enfants de Jacob, et qui vont sauver leur frère. C'est très impressionnant de voir comment Dieu favorise cela. Et du coup, il nous donne une clé de lecture pour comprendre qu'il a demandé aux anges de servir cette créature spirituelle, bien inférieure à eux, mais qui néanmoins, par la grâce de Dieu, peut être amenée dans la hiérarchie définitive, qui est celle de l'amour, de la charité, à les dépasser, à les rejoindre et même à les dépasser. Même si en nature, ils sont plus dans leur perfection naturelle, ils sont plus parfaits que tous les hommes, néanmoins, penser que c'est la Vierge Marie qui est la reine des anges. C'est pas les anges qui sont au sommet de l'Église définitive, de l'Église, de l'Assemblée définitive des sauvés. C'est pas les anges. C'est une fille de l'humanité.
Alors vous disiez aussi que souvent les jeunes étaient fascinés par les démons ou par la figure du démon, en tout cas ils croyaient aussi à l'existence du démon. Vous en parlez donc de ce démon, Lucifer, comme il est aussi appelé, et vous expliquez que le destin des anges donc tiendrait à une forme de jalousie de cette préférence pour le cadet. On en a parlé parfois dans cette émission, parce qu'il nous arrive
destin de faire... des démons, alors.
Destin des démons.
Des démons, oui.
Mais qui sont des anges.
Qui sont des anges au départ.
Racontez-nous cette histoire.
Créé que des anges bons, bien sûr.
Donc Dieu a créé avant l'homme donc cette réalité invisible avec cette multitude d'anges, et donc il y aurait une forme de jalousie primitive
à cause d'un trop grand amour de Lucifer et de ceux qui l'ont suivi, trop grand amour d'eux-mêmes, ils se sont idolâtrés eux-mêmes, et du coup ce service que Dieu leur demandait, que les autres ont fait de grand cœur, eux ont répondu par ce fameux « non serviam »,« je ne servirai pas », qui s'est mis en travers, c'est ça le mot « diable hein, », celui qui se met en travers du dessein de Dieu.
À ce sujet, ça dit, semble-t-il, quelque chose ici du rapport que l'on doit avoir à Dieu. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu, parce que le premier mouvement donc, de Lucifer, en tout cas à vous lire, pouvait être un mouvement, entre guillemets, compréhensible, c'est-à-dire qu'il voulait que Dieu reste à sa place aussi, ou quelque part, qu'il ne s'abaisse pas à certaines choses. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette précision?
Je dirais que Lucifer a une... Le démon a... un amour esthétique de Dieu. Il le veut vraiment sur son trône. Je pense à certaines réactions aujourd'hui par rapport au pape François. Il n'est pas assez pape. On comprend ce que ça veut dire. Il est trop simple, il ne pontifie pas assez, il n'est pas assez... Mais eux, les démons, ils veulent que Dieu soit Dieu sur son trône et qu'eux soient bien sûr immédiatement... en dessous. Jamais le démon ne prétend remplacer Dieu. Mais être immédiatement en dessous, et surtout pas que cet homme, cette créature matérielle, etc., puisse être arrivé à les dépasser, à être plus près de Dieu. C'est une espèce de folie de Dieu qu'il se sent comme en devoir de rectifier.
On va faire une deuxième pause pour vous laisser aussi récupérer pleinement votre voix. Je rappelle le titre de votre livre, Le monde invisible des anges, paru aux éditions de l'Emmanuel.
Présence.
Emmanuel Pella.
Qui sont les anges ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Jean-Miguel Garrigue, prêtre dominicain, théologien, auteur donc de cet ouvrage, entre autres, puisqu'il a écrit de nombreux ouvrages, Le monde invisible des anges, paru aux éditions de l'Emmanuel. Il faut le rappeler, je ne l'ai pas dit, que ce livre, pour sa première édition, date de 2004, mais qu'il a été, au dire même de son auteur, de multiples fois réédité et qu'il fait partie de ses succès de librairie. Preuve de l'intérêt, voire de la fascination que les anges peuvent exercer sur nos contemporains et on imagine aussi sur les chrétiens. J'aimerais qu'on finisse cette dernière partie d'émission sur la relation que l'on peut entretenir avec ces anges. Beaucoup de personnes fascinées par le monde des anges ont cité quelques grands succès de librairie au début de l'émission. Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovitch. On aurait pu citer aussi Dialogue avec l'ange, qui est un best-seller d'une certaine Gita Maloz, si je prononce correctement. Ouvrage écrit, dit-on, pendant la Seconde Guerre mondiale, où quatre amies hongroises, dont enfin une, aurait eu 88 entretiens avec un ange. C'est un livre qui a été publié en 21 langues. Faut-il essayer de rentrer en contact avec les anges ? Que dit l'Église sur ce sujet, Père Jean-Miguel Garrigue ?
Alors, l'Église parle de... des anges gardiens, c'est-à-dire nous avons chacun un ange qui nous a été donné pour veiller sur nous, nous aider dans notre cheminement vers Dieu. Et donc, on peut bien sûr le prier. On peut aussi prier les autres anges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, etc., les grands archanges dont on connaît le nom par la Bible. Il faut se garder, en revanche, d'aller chercher des noms qui viennent parfois de sources plus ésotériques ou kabbalistiques. Là, on entre dans des zones déjà plus... Mais tant qu'à ça reste...
Voir des évangiles apocryphes, non ?
Les évangiles apocryphes et parfois même le gnosticisme, enfin, l'ésotérisme aujourd'hui, etc. Certains veulent absolument savoir le nom de leur ange et de leur demande. Il n'y a pas besoin de savoir son nom. Du moment qu'on sait qu'on peut lui parler, c'est un esprit tellement plus intelligent que nous. Dès que nous nous tournons intérieurement vers lui, il sait que nous lui parlons. On n'a même pas besoin de l'appeler par son nom. Il faut éviter un peu une excessive curiosité. Je crois que Dieu nous a révélé ce dont nous avions besoin pour les anges. Alors, après, il y a parfois des révélations particulières qu'il faut accueillir avec respect quand ce sont le fait de saintes personnes, ou parfois même de saints tours. Mais voilà, il faut garder là une juste mesure entre une attitude arrogante, rationaliste, et d'autre part, une sorte de curiosité, de gourmandise spirituelle qui peut tourner un peu à la superstition.
Alors, quel danger y aurait-il à essayer de rentrer en contact avec son ange ? Vous disiez que c'était...
Aucun, si on le fait dans le désir de se rapprocher de Dieu à la suite de Jésus, il n'y a aucun danger à lui demander son aide, même pour des choses concrètes. Il y a des gens qui me disent que ça leur réussit toujours de demander à leur ange gardien de les aider pour trouver une place de parking. Il paraît que ça marche. Les personnes assurent que vraiment... ce sont des personnes qui sont souvent très données elles-mêmes au service de Dieu. Plus on est au service du Seigneur dans sa vie, plus on a fait de sa vie vraiment un service du Seigneur, plus il est normal que les anges nous aident. Vous comprenez, si vous êtes en train de chercher une place de parking, mais vous avez une vie bien, bien centrée sur vous-même, simplement, c'est pas étonnant qu'ils répondent peu. C'est comme si vous leur demandez de gagner à la loterie. Mais quand vous êtes vous-même impliqué dans quelque chose qui est une donation un peu aux autres, dans l'esprit du Christ et tout ça, ben, normal que les anges participent à cette aide.
Alors quand je parlais des dangers, je voulais quand même un tout petit peu creuser. Il ne s'agit pas de curiosité malsaine, mais comme il s'agit d'une partie de la réalité des Français, alors peut-être aussi des auditeurs. Je sais que dans notre région, voilà, il y a des gens qui s'essayent à des communications avec les anges. C'est voilà une forme de une des formes que prend la spiritualité dite New Age aussi. Quel est le risque quand on n'a pas, on va dire, ces attendus de la foi chrétienne? Je pense par exemple aux médiums qui proposent de rentrer en relation avec ce qu'on appelle des anges de lumière. Est-ce que ce sont des anges déjà?
Alors, c'est le danger du spiritisme, parce qu'en fait, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on peut rassembler sous le mot global de spiritisme, qu'on le fasse autour d'une table ou à travers un autre médium. Il y a toujours, dans le spiritisme, il y a toujours un moyen terme, un médium qui peut être la table, qui peut être la personne qui a des dons de ce genre, etc. Un pendule, enfin, peu importe. Le danger, là, c'est que vous êtes en dehors. Vous perdez à la fois le contact rationnel et le contact de la révélation biblique. Vous êtes dans un domaine où vous avancez à vos risques et périls.
Alors, on quitte le rationnel, ça veut dire quoi, déjà ?
On quitte le rationnel parce que le domaine des angéliques n'est pas très vérifiable au point de vue rationnel. C'est pas totalement irrationnel. Ça reste raisonnable, mais ce n'est pas prouvé. Donc je n'ai pas de repère pour dire est-ce que dans ce que je vis, est-ce que ça reste, c'est conforme à la raison ou non. J'ai déjà quitté un peu un domaine, voilà, je suis dans quelque chose qui est purement spirituel. Du côté de la révélation, je l'ai quitté aussi, puisque je m'abreuve à d'autres sources, etc. Je relativise la révélation biblique. Je pense que, voilà, que ce n'est qu'une parmi beaucoup d'autres.
Encore faut-il la connaître, si je peux me permettre.
Parce et encore que faut-il la connaître.
Dans un univers, on va dire, hyper rationaliste comme le nôtre, il peut y avoir quelques vertus à chercher autre chose qu'un monde rationnel.
Oui.
Et on n'a pas toujours la culture chrétienne.
Exactement. Et du coup, on entre dans ce monde spirit dans lequel qui déploie des antennes qui captent des choses du monde. Le monde angélique tel que la Bible nous le dit, c'est un monde de service du Seigneur. À partir du moment où j'entre dans la curiosité, la gourmandise spirituelle, ou tout simplement l'intérêt, c'est-à-dire que je vais voir ce genre de personnes pour mes histoires de cœur, pour mes histoires d'argent, pour des tas de choses comme ça, il y a de fortes chances pour que ces communications médiumniques, quelles qu'elles soient, elles me mettent en relation plus ou moins directe avec le monde plutôt démoniaque, qui peut parfois singer les bons anges.
Est-ce que ça vous est arrivé d'accompagner des personnes? On imagine que vous faites de l'accompagnement spirituel, et quelqu'un, imaginons qu'on a un auditeur qui se soit lancé là-dedans une fois dans sa vie, ou qui a entendu parler de proches qui s'essayent à ça. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes?
Je me souviens d'un jeune homme que je connaissais, qui était un étudiant à l'époque, ça fait déjà maintenant pas mal d'années. Ce garçon était étudiant en médecine, donc il avait une bonne rationalité par un certain côté, mais il s'était lancé dans le spiritisme. Il avait une tête de mort d'ailleurs, comme souvent les futurs carabins peuvent avoir une tête de mort parce qu'ils étudient pour l'anatomie. Et il l'avait sur sa table, dans sa chambre. Et avec d'autres, ils se sont mis à faire des séances de spiritisme autour de la tête de mort. Et la tête de mort claquait, la mâchoire claquait comme ça, pour répondre aux questions, comme la table tape, etc. Eh bien, ce garçon, qui était d'ailleurs d'une famille très chrétienne, mais qui était passé dans ces choses un peu nouvel âge, mais il a fini par se suicider. Et personne, ses copains ont été terrifiés parce qu'ils avaient senti quelque chose de très malsain dans cette. Mais eux n'étaient pas directement concernés, c'était lui qui était vraiment branché là-dessus. Ça l'a conduit au suicide.
Dans votre livre, et vous finissez quasiment là-dessus, vous dites qu'il faut apprendre à gérer aussi les puissances mauvaises. Bien que démasquées et jugées par le Christ, elles gardent encore un pouvoir diabolique sur le monde, mais le chrétien a dès maintenant pouvoir sur elles en attendant de les juger avec le Christ. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et vous citez là un passage, je crois, des Corinthiens ou de l'Épître aux Hébreux. Alors ça ferait probablement l'objet d'une autre émission, mais que faut-il savoir ? C'est quoi les grandes lignes à connaître sur ces puissances mauvaises dont il faut apprendre à se garder ? Parce que souvent, on va dire, quand on a une vie chrétienne et une vie de prière, on sait qu'il faut essayer de grandir dans la connaissance de Dieu, dans les vertus, mais se garder des puissances mauvaises. Est-ce que ça fait partie aussi, quelque part, de la vie chrétienne normale ?
Bien sûr. Il y a une part même de combat. Saint Paul nous dit qu'il faut les combattre avec le Christ qui les a combattus et vaincus. Mais c'est un combat qui se continue maintenant au niveau des membres du Christ que nous sommes, et tout ne lui est pas encore soumis, et loin de là.
Si vous deviez prendre des exemples de ces puissances mauvaises, ce serait quoi, en fait ?
Eh bien,
dans certaines de nos difficultés de nos vies, en fait, quelque chose de plus grand qui se joue.
Oui, et parfois même à un niveau tout à fait collectif, que ce soit les grandes idéologies qui surgissent périodiquement, ces grandes idéologies meurtrières, terribles, totalitaires, que ce soit sous forme plus rampante dans un libéralisme qui relativise tout, les valeurs, etc., l'avortement, la fin de vie, etc. Vous voyez bien tous ces combats qui se mènent aujourd'hui au plan sociétal.
Donc il y a quelque chose de spirituel, en fait, dans ces idéologies.
Il y a quelque chose. Quand Saint Jean-Paul II parlait des puissances de mort, il est clair qu'il avait présent à l'esprit ce monde démoniaque. Pas forcément en direct, mais à travers des médiations, etc. Ils enténèbrent l'esprit des gens, ils nous égarent.
Ça veut dire que vous nous disiez que les anges étaient d'une extrême discrétion. Le signe de l'effacement extrême de l'amour. Est-ce que c'est parfois aussi la même chose pour les démons ? C'est-à-dire qu'on ne voit pas leur action
Les démons, on dit qu'il y a deux choses que le démon cherche. C'est ou bien qu'on le voit partout, ou bien qu'on le voit nulle part. Parce que comme ça, que si on le voit partout, ben on va avoir peur de lui, on va être terrifié, ou quand on le voit nulle part, ben on ne va pas se rendre compte et on va être trompé par lui. Il faut savoir le voir et en même temps savoir que sa puissance reste une puissance, malgré tout, déjà condamnée, déjà vaincue. Mais la bête peut encore, une bête blessée peut encore faire des dégâts terribles.
Je voulais qu'on finisse cette émission par une expression. Alors j'espère qu'on charge à vous dans votre réponse que ça n'angoisse pas tout le monde pour conclure cette émission sur ces réalités. Vous avez c'est une expression donc du poète Rainer Maria Rilke. Tout ange est angoisse. Pourquoi est-ce que vous avez cité ce poète ?
Je ne sais pas si je l'ai bien transcrit. C'est tout ange est d'angoisse.
D'angoisse, pardon.
Avec des apostrophes.
C'est ce que vous avez écrit.
Tout ange est d'angoisse. C'est-à-dire que tout ange... les poètes ont grande expérience de l'angélique. Hein, c'est très curieux. La présence de l'ange dans la poésie est toujours très impressionnante, dans l'art en général. Et parce que les artistes sont en contact avec ce monde qualitatif. Et pourquoi d'angoisse ? Parce que c'est une créature qui est supérieure à nous. Et regardez la Vierge Marie, quand elle reçoit l'ange Gabriel, elle a peur. Elle a peur. Il doit la rassurer, alors qu'il vient lui apporter une très bonne nouvelle. Et combien ? Donc, l'ange est très supérieur à nous, au point que dans l'Apocalypse, Saint Jean, à la fin, il va se prosterner devant lui, et l'ange doit lui dire, mais non, attention, je suis un serviteur comme toi du Seigneur, il n'y a que Dieu que nous devons adorer, etc. Mais par rapport à l'homme, on est très 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 petit.
Eh ben merci Père Jean-Miguel Garrigue d'être venu au micro de Vivante Église, même avec la voix un peu fatiguée, voilà, c'est toujours aussi passionnant. Je rappelle une dernière fois le titre de ce livre, livre court, mais que l'on peut lire et relire parce qu'il est très dense, voilà, à peu près une soixantaine de pages, « Le monde invisible des anges et leur mission dans le plan de Dieu », paru aux éditions de l'Emmanuel. Un grand merci à vous.
À vous.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.